Oh, su niña, oh, su niña. Larga está mi Zacarías. Oh, su niña, oh, su niña. Oh, su niña, oh, su niña. Oh, su niña. Larga está mi Zacarías.
Bien sûr, Piètre Evolution Soccer, votre troisième épisode de cette série consacrée à la Coupe du Monde 2026 sur le canapé. Sur Radio Campus Orléans 88.3 FM, on est en train de suivre une rencontre pas vraiment passionnante, hein, je vais pas vous mentir pour l'instant, entre l'Espagne et le Cap-Vert. Ça fait 0-0 à la mi-temps et on va reprendre les hostilités d'ici quelques secondes. Et je suis toujours accompagné donc de mes coéquipiers pour cette soirée. Steven, Sébastien, Maxime ainsi que... Philippe, voilà, pardon, je suis complètement amorphe, merci. Vous allez bien sinon ? Moi je suis complètement crevé, hein, je vous avoue, hein, je suis complètement mort, donc je compte sur vous pour me soutenir là.
Le match ne vous aide pas.
En fait j'étais déjà fatigué, effectivement, là, le côté soporifique de ce match il m'a calmé là. Hein. J'espère qu'il va y avoir un petit peu plus d'ambiance et de dynamisme apporté par l'équipe d'Espagne sur cette deuxième mi-temps.
Les matchs de cette nuit étaient beaucoup mieux.
Ouais. Après, force aux Cap-Verdiens, hein, pour le coup, c'est très bien aussi qu'ils puissent résister. Et, c'est cool aussi qu'ils puissent faire un match nul. Ouais, Steven, tu disais ?
Je disais, ils tiennent tête hein, déjà à l'Espagne, ouais, qui est quand même une grosse équipe. Aussi.
C'est ça, ouais.
Non, exactement. Ouais, c'est pas déconnant ce que j'entends bien.
Je disais que c'était un tout petit pays de 500 000 habitants.
Ouais, 500 000 habitants. Bon, trois fois plus que le Curaçao, quand même, qui s'est pris un 7-1 contre l'Allemagne. Et en même temps, on va pas se moquer du Curaçao parce que voilà, moins que le Loiret, moins que. Attends, 150 000 habitants. Je crois que c'est à peine l'aire urbaine de la métropole d'Orléans.
Oui, c'est ça.
Voilà. Curaçao, c'est 150 000. Ouais. Okay. Donc autant dire que voilà, on va pas trop se moquer d'eux de et se prendre un 7-1 contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne, 4 fois championne du monde et un pays infiniment plus grand.
Puis l'Allemagne, voilà, ils sont connus pour vraiment appuyer, aller jusqu'au bout et pas lever le pied à chaque fois, à chaque rencontre.
Hein, ça, c'est Dutch Qualität. Voilà. Hein, c'est le pragmatisme. C'est le pragmatisme aussi à l'allemande, hein, ça c'est clair et net.
Jusqu'au bout, quoi.
En fait, dans la version allemande, en fait, c'est on ne bat pas son adversaire, on le piétine, on l'humilie et on l'écrase si on en a la possibilité. Voilà.
Ça renoue avec une certaine tradition. Quoi.
Que les auditeurs et auditrices allemands et allemandes nous excusent.
Vous aime bien.
Allez, reprise des hostilités. En tout cas, on est à 46 minutes et 53 secondes sur notre écran. Voilà. Donc
vous savez que cette nuit, on a eu le premier séisme, on va dire, de cette Coupe du Monde, mais cette fois sportivement.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. Voilà, c'est un séisme au sens figuré. Ouais, okay.
En fait, la Tunisie a perdu 5-1 face à la Suède cette nuit à 6h du matin.
Oui.
Donc, une grosse surprise quand même. Il y a eu pas mal de problèmes au niveau de la fédération de Tunisie, tout ça. Donc, je ne suis pas allé dans les détails encore. Je n'ai pas encore été beaucoup regardé ce que Romain Molina a sorti, par exemple. Mais du coup, l'entraîneur de la Tunisie a été limogé.
Oh, ok, en pleine coupe du monde. Ça, c'est pas mal, ça, effectivement.
Et du coup, on pourrait retrouver un Wahbi Khazri, si vous connaissez, qui est passé par la Ligue 1, par Saint-Etienne, Montpellier notamment, qui pourrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde.
Ok, d'accord. Alors, ça, je ne l'avais pas vu venir.
Bah, moi non plus. C'est vrai que perdre 5-1 face à la Suède, qu'on galérait à se qualifier Coupe du Monde.
Centre, une tête qui tentait de prolonger le ballon, mais finalement il n'y avait personne à la réception. On retente un tir à l'entrée de la surface de réparation, un tir du pied gauche de notre ami, qui est ce joueur-là, c'est Fabien Ruiz. Ouais, voilà. Et ouais, c'est clair, non, mais ça je ne l'attendais pas forcément, ce que tu me disais là.
Bah, moi non plus, c'est vrai que. On part avec un entraîneur, on dit qu'il va finir au moins la compétition. Mais...
Ouais. Et alors, l'occasion aussi de revenir sur un autre résultat qui s'est déroulé juste avant, à 1h du matin. C'était... Oui, Philippe.
Pour rebondir là-dessus, justement, l'Espagne, elle avait connu presque la même chose en 2018, où l'entraîneur de l'époque, qui était Lopetegui, je crois, avait été viré juste avant, mais vraiment une semaine avant la Coupe du Monde, parce qu'il avait annoncé qu'après la Coupe du Monde, il allait au Real Madrid. et au Real Madrid. On sait combien de temps il a duré, c'est à peine quelques mois aussi. Oui.
Et c'est en 2022 que Luis Enrique avait décidé de jouer le rôle d'entraîneur influenceur qui faisait des directs sur les réseaux sociaux. Non, c'était pas ça. Vous vous souvenez pas de ce truc-là ? Luis Enrique, quand il était sélectionneur de l'équipe d'Espagne, donc actuellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il avait fait à un moment donné, en pleine Coupe du Monde ou en pleine Euro, je ne me souviens plus, il avait sa propre chaîne, alors Twitch, je ne sais plus, et en fait, il revenait sur les matchs de son équipe, ouais, et en fait, il se passait de la communication des journalistes pour communiquer directement vis-à-vis du public.
Je voulais pas à côté ouais. cette information-là,
j'avais jamais
attends,
vu ça non plus,
ça, mais c'est,
quoi qu'il arrive, on ne peut rien reprocher à Luis Enrique aujourd'hui, après ce qu'il a fait.
Ah oui, non, mais ça c'est clair, ça.
Même au Barça en 2015, en vrai... Et pas que, c'est sur ces années-là aussi.
Sacré entraîneur, hein, quand même.
Ah ouais, c'est clair. Attends, je vais essayer de vous retrouver ça parce qu'il faisait, ouais, il faisait ses petits lives. Ouais, Coupe du Monde 2022, Luis Enrique débarque sur Twitch pour établir un lien direct avec les fans. Voilà. Et donc une première dans l'histoire du football, c'est ce qui est raconté sur le site du Figaro. Le sélectionneur a affirmé vouloir établir une relation directe avec les supporters en communiquant sur la plateforme de diffusion Twitch.
Et ouais, la performance de son équipe, il aurait bien fait se concentrer sur le football.
De toute façon, j'ai l'impression que Luis Enrique, il n'est pas trop fait pour le football de sélection. Lui, c'est un gars qui construit petit à petit ses équipes et donc il est parfait pour les clubs.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Petit point aussi sur un autre résultat de cette nuit également, Côte d'Ivoire-Équateur, 1-0. Je ne sais pas si vous avez vu les résumés ou ce qui s'est passé. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé aussi de ce résultat?
L'Équateur qui n'a pas eu de chance, qui a touché deux fois la barre en première mi-temps.
Okay.
Et la Côte d'Ivoire qui l'a touché aussi une fois en seconde mi-temps.
Alors, attends, on a une action espagnole là peut-être, un surnombre et finalement une frappe qui passe au-dessus toujours de Fabien Ruiz.
Il est heureux dans le stade qui gagne un ballon de.
Ouais, mais je crois qu'il va être obligé de le rendre. C'est toujours comme ça. C'est terrible. On pense toujours que les supporters. Les supporters peuvent récupérer le ballon, encore en fait non.
Tout à l'heure,
un mec de la sécurité qui va venir et qui va lui dire vous me rendez le ballon tout de suite monsieur.
Tout à l'heure on a vu un enfant le redonner, du coup on a vu un de 8-9 ans.
Comment briser les rêves des gosses.
C'est
quoi.
Ça.
Ouais, Steven.
Là on est aux États-Unis hein, donc si Vigile vient.
Ah bah là c'est coup de matraque, c'est taser, voire c'est emprisonnement à Alligator Alcatraz.
On rend le ballon avec le flingue pointé sur la tête. Donc faut faire gaffe, hein. Rendez les ballons.
Ça a intérêt. Ou sinon on vous le crève d'un coup de flingue dedans, ouais. Voilà. Ouais, donc tu disais, ouais, ils ont un peu manqué de chance.
C'est vrai, ils ont eu quand même pas mal de grosses occasions. Après, l'Équateur, ils sont très connus pour avoir une très grande défense avec Pacho, Icapié, Ordonez aussi, qui est un grand défenseur prometteur qui joue à Bruges et qui est courtisé par de nombreux clubs européens. Mais c'est vrai qu'on a pu découvrir aussi le jeune Plata. Moi, je connaissais juste de nom, mais j'ai trouvé très bon sur ce match, très déstabilisant. Mais la Côte d'Ivoire a su rester solide. A pas eu les plus grosses occasions, mais a eu son joker Amad Diallo, il a une très grande profondeur de banc. Et Amad Diallo est rentré et a marqué un beau but aussi pour la Côte d'Ivoire. Et donc 1-0 pour la Côte d'Ivoire.
Ouais, cool. Et il y a un joueur en particulier à suivre au sein de cette équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'elle intéresse beaucoup nos auditeurs et auditrices, notamment Soléna, que nous allons retrouver demain pour France-Sénégal, puisque Soléna a notamment la nationalité ivoirienne, entre autres.
Et bah, donc,
autant dire que la Côte d'Ivoire, ça va énormément l'intéresser pour cette Coupe du Monde.
Pour faire un lien avec la MLS dont on parlait tout à l'heure, il y a le jeune joueur Yann Diomandé qui joue à RB Leipzig, donc en Allemagne, qui est courtisé par Liverpool, le PSG, le FC Barcelone, tous les grands clubs Arsenal, et qui est un grand ailier droit qui dribble beaucoup, qui a cette particularité d'avoir sa propre technique de dribble. Je trouve qu'il est assez atypique dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de dribbler. Et j'aime beaucoup ce joueur qui est un peu déstabilisant. On ne sait jamais vraiment ce qu'il va faire comme dribble, comme passe. Et il a été très bon cette nuit. Et donc c'est pour moi le joueur à suivre. Dans cette Côte d'Ivoire. Et aussi on a le jeune Ino Ulay qui est un milieu de terrain qui joue en Turquie à Trabzonspor je crois, et qui est un
la tentative alors je sais pas s'il a réussi, enfin s'il
non,
a raté son centre ouais, voilà, ou si c'était fait exprès.
Et du coup Yann Diomandé qui était l'année dernière il y a deux ans dans le deuxième division espagnole et qui juste avant était encore dans le championnat universitaire en MLS, qui était dans une équipe universitaire et qui a été acheté par Leganés en deuxième division espagnole, puis à Lucig. Donc la trajectoire de sa carrière est folle. Vraiment, en quelques mois, années, il est passé de championnat universitaire à l'Europe au plus grand club.
Ouais. Alors là, j'ai Sébastien et Steven qui sont sur le cul là, toute cette analyse faite par Maxime. Merci à toi pour tes lumières, hein, vraiment. Parlons quand même de cette vaillante équipe du Cap-Vert, ou plus précisément de ce vaillant pays aussi du Cap-Vert, puisque là on a entamé la 54e minute de jeu et toujours 0-0, vraiment, ça résiste. Steven, Sébastien, est-ce que il y a des choses à dire ou à connaître, à apprendre peut-être à nos auditeurs ou auditrices par rapport justement à cette histoire du Cap-Vert ou à ce que ça peut raconter potentiellement?
Alors, je connais très peu le Cap-Vert, mais pour l'anecdote, le Cap-Vert en fait à la base c'était une île qui était inhabitée. Et ce sont les Portugais qui ont importé des esclaves en. Alors beaucoup d'Angolais qui ont été amenés de force sur cette île et c'est ça qui a constitué la population du Cap-Vert. Mais voilà, à la base c'est devenu une sorte de plaque tournante du commerce. Alors du commerce transatlantique que les gens connaissent sous le nom
de la traite négrière.
Donc de tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né. En gros, c'est une population directement descendante de l'esclavage et de l'exploitation des corps noirs. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux raconter sur le Cap-Vert. Après, ils ont de la super musique.
Oui, on l'a entendu tout à l'heure, hein, effectivement. Hein. Merci Viviane, hein, encore une fois. Hein. Mais ouais, c'est cool. Sébastien, toi, t'avais aussi des trucs à dire par rapport au Cap-Vert, ou si t'en as pas.
Moi, je connaissais le Cap-Vert, et du coup, je me suis renseigné un peu, comme Steven. J'ai vu qu'il y avait toute cette histoire autour de l'esclavage, qu'ils ont obtenu leur indépendance que dans les années 70, je crois, c'est en 1975. Et oui, qu'ils étaient du coup sous l'emprise des Portugais.
Ouais, c'est ça.
Pendant tout ce temps.
Ils parlent. Alors, je sais plus quelle langue ils parlent, mais il me semble que c'est un.
Créole portugais.
Ouais, c'est ça. Il doit y avoir. Il y a des bases portugaises en tout cas dans leur langue.
Ok.
Et après, au niveau de la liberté de la presse, j'avais regardé, ils sont 40e pays sur 180, donc pas trop mal pour la région. Ils disaient que c'était plutôt bien, un cadre de travail favorable pour les journalistes. Et que c'était plutôt une alternance gauche-droite dans le pays au niveau de la politique. Même s'il y a pas mal de médias au Cap-Vert qui sont quand même contrôlés, enfin nommés par l'État. Donc c'est pas non plus la folie.
Mais c'est vrai en plus que là tu m'y fais penser, mais c'est vrai que je m'étais promis, mais je l'ai pas fait sur les deux premières épisodes.
J'avais proposé les deux.
De passer par le classement RSF notamment. De la liberté de la presse.
Et l'Espagne, ils sont où?
Alors, attends, je vais parler justement des nations que nous avons vues.
Autour de la France, ils sont pas très loin de la France, l'Espagne.
Alors, je vais déjà commencer par notre premier match, à savoir Maroc notamment et Brésil, pour parler un peu, pour essayer de me rattraper un peu. Le Maroc est classé 105e, Et classé 105e, donc je vais pas vous lire toute la fiche pays, je vais juste vous lire les quelques phrases qui présentent très rapidement donc le classement, en sachant qu'ils font mieux quand même qu'en 2025. En 2025, le Maroc a été classé 120e au classement de la liberté de la presse. Donc 105e, il y a du progrès,
Après, c'est le royaume du Maroc, ça reste un royaume, le Maroc, encore.
Oui, bien sûr. Après, t'as des royaumes aussi qui sont démocratiques, les monarchies constitutionnelles, t'as des monarchies.
Des fois, il y a une liberté de presse plus accentuée, même dans le Royaume-Uni, typiquement.
Ouais. Maroc, Sahara occidental, donc RSF, qui explique que les journalistes indépendants au Maroc subissent une pression continue et le pouvoir tente de mettre les médias aux ordres. Le gouvernement actuel, dirigé par l'influent homme d'affaires Aziz Akanouche, a renforcé son contrôle sur ce secteur. Donc ça, c'est pour le Maroc. Passons au Brésil aussi, que nous avons vu dernièrement, histoire de me rattraper encore une fois. 52e. En petite augmentation aussi, puisqu'ils étaient 63e l'année dernière. On explique que le nouveau gouvernement de Lula ramène une normalisation des relations entre les organismes d'État et la presse, après un mandat de Jair Bolsonaro marqué par une hostilité permanente vis-à-vis du journalisme. Mais la violence structurelle contre les journalistes, un paysage médiatique marqué par une forte concentration privée et le poids de la désinformation, constituent des défis pour la liberté de la presse dans le pays. Voilà. Le deuxième match que nous avons suivi, bah, c'est Japon-Pays-Bas.
Alors pour les Pays-Bas, ils sont premiers ou deuxième, un truc comme ça.
C'est la Norvège, les premiers.
La Norvège, les premiers, donc les
Pays-Bas. Mais je crois qu'ils ont un très bon classement pour le coup. Alors que là, la Ola est entamée par les supporters, donc je pense des deux équipes des pour deux le équipes. Coup. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a plus de bonne ambiance hein, dans les, oui, dans les tribunes. Soit, hein. De... Avant de parler peut-être du classement de la Liberté de la Presse des autres pays, peut-être arrêtons-nous rapidement sur ce. Coup franc, plutôt un corner. Alors on est sur le côté droit avec une tentative de centre de la part des Espagnols et c'est encore une fois repoussé de la tête par les Capverdiens. Vraiment ils résistent.
Oui, hein, ils résistent.
Ils mettent l'assaut, mais le bus capverdien est solide. Le bus capverdien ne se renverse pas pour l'instant.
Bon, c'est pas avec Ferran Torres qu'ils vont réussir à déstabiliser.
Bah c'est sûr que oui, la Miniamal serait vraiment très intéressant dans la percussion hein, pour le coup, pour essayer de déstabiliser ce bloc défensif capverdien. Je reviens bah, du coup sur le classement RSF. Pour le Japon, on est classé à la 62e place seulement. Pareil pour une démocratie ou tentative de passe en profondeur. C'est légèrement détourné par la défense, mais un centre sur le côté droit et finalement, encore une fois, une très très bonne sortie de la part du gardien de but. Ouais, le gardien, il est chaud hein, pour le coup. Hein, effectivement.
Mais, Japon, je savais pas qu'ils étaient classés si bas.
Ouais, bah attends, je vais te dire pourquoi. Hein. Ouais. Je vais juste déplacer mon onglet à un meilleur endroit pour des solutions de commodité. Juste pour rappeler aussi un Vosinha, c'est le nom de ce gardien de but, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure et on ne le cite pas, donc il mérite quand même d'être cité vu la qualité du match qu'il nous propose. Alors que là, les Capverdiens sont à l'assaut, là pour le coup, ils ont trouvé un peu d'espace dans la défense espagnole, mais ils sont arrêtés avant l'entrée de la surface de réparation. Et là, c'est un attaque-défense, on va dire presque. Là, on est en train
dans la profondeur.
Ouais. Servi dans la profondeur effectivement, mais une très bonne défense de Borges notamment, le défenseur central qui n'arrive pas à éviter le corner effectivement. Japon, juste je vous fais donc rapidement le point, je reviens dessus, donc 62e effectivement, à peu près le même classement que l'année dernière, ils étaient 66e. Le Japon est une démocratie parlementaire selon RSF où les principes de liberté et de pluralisme des médias sont généralement respectés. Mais cependant, le poids des traditions, les intérêts économiques, les pressions politiques et les inégalités de genre empêchent souvent les journalistes de pleinement exercer leur rôle de contre-pouvoir. Pour les Pays-Bas, alors là je pense que le classement...
La Miniamal qui est en train de s'échauffer.
Deuxième, ouais. Deuxième, félicitations les Pays-Bas, médaille d'argent donc de la Liberté de la Presse et ils font ils progressent d'une petite place puisqu'ils étaient médaille de bronze l'année dernière. L'assassinat en juillet 2021 du journaliste Peter De Vries, j'arrive pas à le prononcer, qui travaillait aussi comme conseiller juridique pour les victimes de crimes, a bouleversé une société qui valorise la liberté de la presse, mais aussi les autorités qui ont élaboré un système sophistiqué de protection de la presse. Voilà. Okay. Donc on pourra rentrer plus en détail là-dessus. Et donc pour le match qui nous intéresse, pour le coup, si je parle de l'Espagne, l'Espagne se classe 29e. Alors ça veut dire qu'il y a 28 pays qui sont devant et ils sont juste un peu derrière la France, semble-t-il, parce qu'il me semble que la France est 26e. Ok. À discuter, on va dire.
Oui, pourquoi pas.
Après, c'est RSF. Hein, donc ils ont des. Faut comprendre aussi que RSF a des indicateurs politiques, économiques, légaux, sociaux et sécuritaires aussi pour évaluer avec un certain nombre de points qui sont donnés en fonction de critères qui semblent assez précis. Pour l'Espagne, on dit que la polarisation politique se reflète dans les médias qui brouillent dangereusement la frontière entre l'information et l'opinion. La liberté de la presse est également menacée par une augmentation des procédures Bayon et des procédures politiques sur les journalistes. L'engagement du gouvernement à l'égard du règlement européen sur la liberté des médias doit encore se concrétiser. Voilà.
Ils ont perdu 6 places depuis l'année dernière.
Ouais. Et Cap-Vert, ils sont 40e et ils ont perdu 10 places puisqu'ils étaient 30e l'année dernière encore. Cap-Vert, le pays se distingue dans la région par un cadre de travail favorable pour les journalistes. La liberté de la presse est garantie par la Constitution. Les responsables des médias publics qui dominent le paysage médiatique sont toutefois nommés directement par le gouvernement.
Oui. Moi, d'ailleurs, je suis en train de penser, parce qu'on parle des Pays-Bas, Pays-Bas qui est un pays qui a des moyens. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu le 12 juin est rentré en vigueur un pacte européen. Un pacte européen sur l'immigration, notamment. Et ce pacte européen, il permet à des pays de... Alors, je n'ai plus le terme, mais grosso modo, c'est un système qui permet de payer d'autres États pour prendre en charge des personnes qui demanderaient l'asile. Et j'attends de voir ce que ça va donner, mais je soupçonne que les Pays-Bas soient l'un des pays qui va payer pour ne pas justement traiter des demandes d'asile. Donc voilà, c'est juste.
Oui, je tenais à. Il y a une belle liberté de la presse là-bas, mais par contre, c'est contrebalancé aussi par peut-être les droits des migrants qui sont un peu bafoués.
Même le droit le plus élémentaire, qui est enfin le droit à l'asile, l'asile politique, le fait de fuir son pays, tes souhaits.
Merci.
Et donc, je sais que les Pays-Bas, c'est un des pays de l'Union européenne qui est en bras de fer constamment pour justement ne pas récupérer des demandeurs d'asile, ne pas récupérer qui étaient contre les accords Dublin typiquement, les accords Dublin qui étaient pour une répartition des personnes fuyant leur pays.
Il y a des choses aussi moi qui m'ont choqué. Alors ils font plus partie de l'Union européenne, mais en Angleterre, il me semble qu'ils renvoient les migrants dans d'autres pays, au Rwanda, notamment.
Ça c'est un truc.
On critique beaucoup Trump et tout dans cette émission, mais là il y a la nouvelle loi européenne qui a été votée, qui va permettre de renvoyer des gens dans des sas d'accueil, dans des pays où ils sont pas originaires.
Ils n'ont rien à voir avec leur histoire.
Alors il y a deux choses c'est le pacte européen, et du coup il y a deux choses qui sont rentrées en vigueur dans l'Union européenne. Ce sont la notion de pays tiers sûr, donc des pays qu'on considère que pouvant accueillir les demandeurs d'asile pour l'Union européenne. Donc c'est ce que le Royaume-Uni a tenté de faire avec le Rwanda, ça a été un échec. L'Italie aussi a essayé, je ne sais plus quel pays, et ça a été aussi un échec. Et du coup, c'est une des notions. Mais il y a aussi une autre notion qui est rentrée en vigueur, c'est les zones de non-droit sur le territoire de l'Union européenne. Donc aux abords des frontières, que ce soit France, Espagne, Italie.
Les zones où on peut emprisonner les gens sans véritablement respecter les règles élémentaires des droits humains.
En fait, on considère que ce sont des zones sur le territoire de l'Union européenne où le droit de l'Union européenne ne s'applique pas. Donc toute la question, ça va être de dire...
C'est quel droit qui s'applique ?
Ça s'applique, c'est ça, tu vois.
Comme les territoires français, comme Mayotte, où il y a des règles spéciales pour l'immigration.
En fait, ça va être un peu un terrain d'expérimentation, tu vois. Et du coup, toute la question, c'est qui va gérer ça ? Comment ça va être géré ? Est-ce que les associations auront le droit d'intervenir dans ces lieux ? Plein de questions qui sont totalement auquel on n'a aucune piste de réflexion, aucune piste de réponse. Donc ça pose quand même beaucoup de questions.
C'est clair,
Je spoil pas, mais il y a aussi un règlement européen qui est en cours d'être voté aussi.
Je spoil pas, j'aime bien comme si on parlait d'un film, d'un nouvel épisode d'un film, d'une série.
En fait, mine de rien, l'Union européenne s'inscrit dans la dynamique des États-Unis et de l'ICE.
Cette organisation politique qui essaye de se montrer dans dans l'image internationale qu'elle renvoie comme une organisation qui respecte les droits humains bien mieux que les autres, petit peu le vernis.
On va s'apercevoir que non. Pour faire le lien entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est que là on a une politique migratoire au niveau de l'Union européenne qui s'aligne sur la politique de l'ICE.
Avec Frontex notamment, il me semble, qui est l'organisation qui régit là.
Frontex qui n'hésite pas à renvoyer des gens qui sont en mer vers là d'où ils viennent, ce qui est totalement illégal, qui n'hésite pas aussi à crever des embarcations, ce qui a été pointé du doigt par beaucoup d'associations qui sont présentes aux frontières. Des pratiques totalement illégales, inhumaines, immorales. C'est l'ICE en fait.
On a notre ICE, ça s'appelle Frontex. Et on en a d'autres certainement les pays. Mais Piètre Évolution Soccer, en mode rédac pop là pour le coup, aujourd'hui. Non mais c'est vrai, c'est encore une fois, on tire des sujets aussi très intéressants.
On a l'Espagne, on est aux États-Unis, l'Union Européenne, il se passe quand même pas mal de choses. Je pense que mine de rien, il faut quand même parler de ces sujets.
Le gouvernement justement de Pedro Sanchez, t'es très critique par rapport à ce qu'il fait.
Parce que tu vois, je sais pas si ça a été pensé, mais c'est ce qu'on disait hier, les événements sportifs comme ça, ils permettent d'endormir un peu la vigilance. Du coup, il y a plein de choses qui passent parce qu'on est focalisé sur ces périodes de vacances, ces périodes là de fêtes ou de rassemblement autour du foot. Et en fait, ça permet à toutes les lois dégueulasses de passer sans que les médias s'intéressent vraiment. Voilà, faut pas oublier que t'as beaucoup de lois qui sont passées aussi pendant les vacances d'été. Et je crois que c'était Copé qui disait justement, qui expliquait que la meilleure période pour voter des lois dégueulasses, c'est les vacances d'été.
Les vacances et les compétitions sportives, j'imagine. Les vacances surtout.
Parce que les gens sont ailleurs.
Bah, en même temps, oui, et on peut pas blâmer les gens de vouloir un peu s'aérer l'esprit, de vouloir se reposer dans ce monde très compliqué, mais c'est sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission Piètre Évolution Soccer, c'est justement pour à la fois trouver le mix entre nous, fans de foot, comme Maxime, comme moi, comme Malo par exemple, comme Philippe, qui veulent profiter un peu de cette compétition. Et en même temps, ne pas être naïf et ne surtout pas être aveuglé par rapport à tout ce qui se passe aussi dans le monde et autour de cette compétition.
En fait, moi, je trouve qu'on est quand même une génération où on est partagé. Justement, quand on est fan de foot, on est partagé entre notre passion du football, le fait et l'envie de regarder des grandes compétitions et ce qui se passe réellement derrière et comment elles sont ficelées. Et là, je dirais que ça fait quand même 3 Coupes du Monde d'affilée, Russie, Qatar et là États-Unis, où on est un peu pris en otage, le fan de football est pris en otage entre sa passion et ses valeurs, parce que derrière il y a des choses totalement abominables qui sont organisées dans ces Coupes du Monde. Et il faut dire aussi que cette année, c'est un petit peu... Il y a quand même un goût amer dans cette compétition, et le vrai gagnant de cette Coupe du Monde, c'est pas le fan de foot, c'est pas les sportifs, en fait c'est Trump, parce que cette Coupe du Monde, elle arrive à point nommé pour lui, parce qu'elle éclipse effectivement tous ces trucs qui vont pas dans sa politique et toutes les affaires, les casseroles qui se traînent depuis des années, quoi, et qui commençaient.
Les termes aussi, qui sont des élections cruciales pour lui, qui peuvent le mettre à mal aussi. Donc, pour se refaire aussi la cerise par rapport à l'opinion publique.
Et puis même, il commençait à y avoir le dossier Epstein qui faisait beaucoup de bruit. Et là, ça vient de le sauver. Et on voit aussi dans sa politique depuis le début de l'année, il cherche absolument à ce que l'opinion publique ne s'intéresse pas à ce dossier. Je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, il a déclassifié 160 dossiers concernant les ovnis. Mais c'est pas juste pour montrer qu'il y a des ovnis sur Terre. En fait, c'est juste pour repousser l'attention sur autre chose que lui.
Cette histoire sur les ovnis, ils ont lancé un site internet sur les aliens, les États-Unis. Et en fait, ils faisaient un parallèle entre les aliens, les extraterrestres, et le mot alien en anglais qui signifie les étrangers. Et en fait, ils parlaient tout au long de leur texte et de leur révélation des étrangers qui viendraient aux États-Unis, etc. Vraiment horrible.
On en parlait d'Hitler, Mussolini, mais il faut savoir qu'ils étaient dans cette même configuration où il y avait un essoufflement un peu du mouvement, où il y avait une forme de contestation qui arrivait, et effectivement les compétitions mondiales sont venues un peu les sauver aussi. Mussolini, à la base, typiquement, il n'en avait absolument rien à faire de cette compétition.
Bien sûr.
En fait, c'est
des Jeux Olympiques de 1936.
Oui. Et en fait, on leur a dit, non mais attends, il y a un truc à jouer là en ce moment avec cette compétition. Il y a moyen d'endormir les gens sur tout ce qu'on prépare.
C'est pour ça que Jesse Owens a tellement énervé Hitler, par exemple, avec ses multiples victoires. L'athlète noir qui, justement, descendait le mythe de l'athlète aryen.
Oui, c'est ça qui était...
À cette époque-là,
il avait eu son visa.
Il a eu son visa,
tu vois, mine de rien.
Je sais même pas, on appelait ça des visas à cette époque-là, dans les années 30, je sais pas.
Ouais. Je sais pas, je pense que si, mais tu vois, c'est vrai, cette Coupe du Monde, elle tombe à point nommé pour Trump, et Trump va s'en servir. Il s'est présenté, tu vois, à l'ouverture, il était présent, tu vois, et c'est pas pour rien, même s'il s'est fait huer.
La seule chose qui l'empêche encore de faire absolument tout ce qu'il veut dans ce pays, c'est encore le cadre juridique, législatif, avec les juges qui ont encore beaucoup de pouvoir pour pouvoir tenter de limiter ses actions.
C'est tout le problème, en fait, parce que... On pourrait en discuter pendant longtemps, mais sur les constitutions et le fait que le garant, ce soit le juge. Parce que qui porte atteinte à la Constitution, c'est jamais le juge. C'est toujours l'exécutif, le législatif. Et par contre, qui porte la responsabilité de protéger la Constitution, c'est le juge. Du coup, ceux et celles qui portent atteinte.
Grosse action espagnole, pardon, juste, et tu continues. Oui. Une frappe un peu écrasée encore.
Il y aurait été, mais action
initiée par Yamal. Hein.
Par Yamal, ouais. Qui vient de rentrer là il y a deux minutes et qui apporte déjà toute sa classe sur le terrain.
Mais oui, et en fait, celles et ceux qui portent atteinte à l'intégrité de la Constitution ne sont jamais celles et ceux qui en portent la responsabilité. Et on retrouve en France avec notre Constitution et le Conseil constitutionnel. Qui prend tu vois, typiquement la loi immigration de 2024, c'est Darmanin qui te dit oui, la loi est inconstitutionnelle, mais charge au juge de faire le tri. Tu vois, c'est vraiment ça en fait. Et aux États-Unis, c'est pareil. On est sur ce modèle où c'est le juge qui doit supporter toutes les atteintes aux droits qui sont faites par Donald Trump et son administration. Tu vois.
Oui, puis après, il doit supporter aussi les attaques qui vont être faites contre lui. En disant, j'imagine bien que Donald Trump, sur ses réseaux sociaux, a dû attaquer à de nombreuses reprises les juges
parce que Donald Trump, comme ça lui évite d'assumer la responsabilité de ce qu'il fait. Exactement. Et il peut dire, en fait, moi, j'avais prévu de faire des choses, mais en fait, les juges ont censuré ce que je voulais faire. Du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais.
Même la Cour suprême l'a plusieurs fois limité, alors que c'est une Cour suprême qui est pourtant très, très orientée. Républicaine et républicaine bien à droite. Hein.
C'est ça, parce qu'en fait, y a un moment, je pense que quand tu es dans ces institutions, tu te rends compte que y a quand même des droits à appliquer, etc. Et du coup, il y a des choses que tu peux pas faire.
Ouais. Alors que là, on tente un petit peu de tiki-taka, je te donne la parole juste après. Sébastien. Mais ça tente un petit peu là, les combinaisons, les touches en une, les jeux en une touche de balle. J'ai l'impression que l'entrée de Yamal, en fait, elle a peut-être. Amener ses coéquipiers aussi, se dynamiser un petit peu plus, j'ai l'impression.
Il y a eu l'entrée de Merino aussi, qui peut aussi un peu dynamiser.
Je les sens un peu plus dangereux là depuis quelques minutes.
Espagnol.
Ouais. Philippe. Ouais.
Alors moi, je vais dire sûrement un truc qu'on va appeler une populaire opinion. Je supporte pas Yamal.
Je le supporte
vraiment,
pas.
Il m'énerve.
Alors sportivement, moi je trouve que sportivement, il est incroyable, mais humainement parlant, il est parfois très problématique.
Pour admirer un sportif, il faut quand même que derrière, humainement, le mec il ait une certaine classe. Et en fait, c'est tout l'opposé de ça.
C'est le jet set.
Quand on voit son père et tout, j'ai un peu envie de dire que c'est. faire des fêtes avec des prostituées et des nains, voilà. Ouais. Ça vole pas très très haut. Quoi.
Non, ça vole pas très
haut. Mon avis là-dessus, c'est que je pense que ça va faire une sorte de. Il va avoir une carrière un peu à la Neymar. Où à 22-23 ans, on n'entendra plus trop parler de lui. Il sera.
Il va commencer à se péter parce que c'est son hygiène de vie.
Il va faire n'importe quoi. Il n'est pas du tout encadré.
C'est possible.
C'est dommage, quoi. Il a un talent de fou. Mais...
J'ai rarement vu, depuis Messi, j'ai pas vu un tel talent, de toute façon.
Ça a été contredit par l'entraîneur du Barça, Flick.
Le truc de quoi des.
Que de son hygiène de vie, cette histoire de cette soirée avec les nains, le lendemain il reprenait l'entraînement à 9h du matin avec le FC Barcelone.
Alors pour te résumer un peu l'histoire, à ce moment-là il est même pas majeur.
Steven, il est en PLS là, en entendant c'était
son anniversaire pour ses 18 ans, voilà.
Et il s'est commandé tout un tas de choses parfaitement farfelues, et notamment il voulait des nains qui viennent à son anniversaire, une troupe de nains mélangée à une troupe de prostituées, bref.
Ça a été démenti, c'est qu'il y a bien eu ces personnes,
les nains.
En fait elles ont contredit, parce qu'en fait il y a eu une association de défense des personnes de petite taille. Et cette association en fait a pris a tout de suite dénoncé ce que Lamine Yamal avait fait au cours de cette soirée. Sauf que les artistes, les personnes justement qui avaient été, je sais pas si je peux dire invitées, payées ou je sais pas quoi pour participer à cela, ont démenti cette information, ou en tout cas ont dit qu'ils ont été très bien traités et ont dénoncé le fait que l'association prenne le parti. À leur place.
Là, je vais faire mon juriste, mais on a un arrêt du Conseil d'État qui est connu pour taper sur arrêt Conseil d'État lancé de nains. Et justement.
Où est-ce que ça nous amène
Et ça parle exactement de ça. Où les personnes de petite taille qui étaient invitées pour participer au lancer de nains étaient consentantes. Et elles disaient oui, mais le Conseil d'État a censuré. Alors, je sais pas.
Personne
n'a
dit qu'il y avait de lancer de nains dans cette soirée.
Mais non, mais en fait, c'est typiquement ça, tu vois, où en gros, on dit oui, les personnes qui étaient invitées pour participer étaient consentantes. Mais en fait, le Conseil d'État avait censuré Alors je me souviens plus de quoi. Peut-être ça parle de dignité humaine ou un truc comme ça.
Là, si, pour le coup, oui, c'est ça. C'était qu'il y a 30 ans, en fait, il y avait eu un spectacle de Lancer de Nains, ouais, qui avait nourri des débats juridiques et justement on était arrivé à ce fameux, à cette fameuse décision dont tu parles. Ouais.
Mais en tout cas,
ça, c'est ce que l'équipe nous racontait notamment dans un article de l'année dernière pour parler de cette affaire Lamine Yamal aussi. Ouais.
Après, non mais ouais, voilà. Non mais on parle beaucoup.
C'est des trucs. Ouais.
On parle beaucoup de, du coup, de cette hygiène de vie apparemment de Lamine Yamal qui serait en soirée. À chaque fois, enfin voilà. Comme j'ai dit, du coup, le lendemain de cette soirée, il était à l'entraînement du Barça à 9h du matin, première arrivée, enfin dans les premières à être arrivé. Et toute la saison, il ne fait pas ce genre de soirée. Là, ça a été seulement seulement pour ses 18 ans. Depuis, on n'a pas eu d'histoire. Sur toute l'année, il a été performant. Moi, je vois pas forcément. Après, son père est très
problématique. Supporter de Barcelone, là, qui est en train de parler. Là.
Toute la saison, je l'ai vu performant, en forme physiquement, à part ses histoires de blessures, mais qui est. Il y a eu ces histoires de blessures, mais il a tout le temps été en forme physiquement. Il a toujours répondu présent. Son entraîneur Flick a toujours démenti ces histoires d'hygiène et de soirées. Après,
l'entraîneur n'est peut-être pas invité aux soirées.
Non, mais l'entraîneur, connaissant Hansi Flick, je pense que c'est assez sérieux quand même.
Il porte bien son nom, tu penses?
Entraîneur allemand qui est arrivé au Barça avec une grande.
Avec une grande carrière, une grande réputation.
Une grande réputation, mais aussi avec beaucoup. Il est très strict en fait dans ses entraînements.
C'est vrai qu'il est strict.
Ouais. Dans la rigueur sportive, tout ça. Donc pour moi, je crois à l'entraîneur quand il nous dit que son joueur. Sinon, il aurait été sanctionné par l'entraîneur. C'était obligé. Ouais. Mais du coup, voilà. On en a entendu parler juste seulement cet été. Après toute la saison, il n'y a pas eu d'autres histoires. Après avoir, peut-être que c'est vrai qu'il est comparé à Neymar dans ces histoires-là, avec peut-être qu'il finira, comme tu le dis, à 22 ou 23 ans. Mais moi, je trouve que ça va être différent. Après, je reste sur son père qui est vraiment très problématique. Mais lui, en lui-même.
Ça lui apporte une mauvaise image.
C'est vrai, c'est souvent les pères, le père de Neymar, c'est pareil aussi, il parlait souvent à la place de son fils. Et en fait, ils empêchent l'enfant de s'exprimer lui-même.
L'agent de Neymar.
C'est quand même un autre registre, le père de Neymar et le père de Yamal. Le père de Yamal, on sent que c'est la fiesta, il n'y a rien qui est calculé. Ouais. Le gars, ça y est, il a fait braquage avec son fils. Alors que le père de Neymar, c'est le businessman qui est là pour parler d'argent, parler transfert et.
Rappelons quand même, cela dit, les statistiques de Lamine Yamal. Hein, cette saison, c'est quand même 16 buts et 12 passes décisives en Liga, en 28 matchs de
seulement
Liga.
En championnat.
Et en Ligue des Champions, notamment, c'est 6 buts et 4 passes décisives en 10 matchs. Donc, ce sont quand même des statistiques. C'est une contribution par match, en fait, de buts. Hein, soit passe décisive ou soit but. Hein. C'est un joueur très collectif.
Avec Ferran Torres en numéro 9, ouais. On le rappelle.
En fait, il me fait un peu penser à Messi avec ce pied gauche et cette capacité de percussion. Mais à la différence de Messi, il marque moins de buts, mais il fait plus de passes décisives, j'ai l'impression.
Après, il est encore très jeune, il a 18 ans.
Il est plus précoce que Messi.
Il va avoir 19 ans là dans quelques années, mais c'est vrai qu'il a encore un peu cette finition à travailler. Et après, c'est le joueur qui a le plus de passes décisives ratées, on va dire, parce qu'en fait, ces joueurs ratent. En fait. Du coup, Ferran Torres, c'est le joueur en Europe qui a raté le plus de grosses occasions dans tous les championnats confondus, dans les 5 grands championnats. Donc, c'est aussi à noter pour dire que, par exemple, Michael Olise, qui finit meilleur passeur de cette saison, il a Harry Kane qui, lui, plante but sur but à chaque match. Il n'est pas aidé non plus par son équipe, Lamine Yamal. Et là, si le Barça va chercher un vrai numéro 9 cet été, je pense que Lamine Yamal va être beaucoup plus terrifiant et beaucoup plus dangereux sur cette saison-là du Barça.
Ouais. 81e minute, 81 et 30 secondes pour être précis. 0-0 toujours entre l'Espagne et le Cap-Vert.
Son match nul,
incroyable. Non, mais là, ils sont en train vraiment de déjouer tous les pronostics. Alors évidemment, domination outrageuse de l'équipe d'Espagne, mais ça on s'y attendait, hein, avec presque 2 expected goals pour les Espagnols, 21 tirs, seulement 3 pour les Capverdiens, donc 21 tirs pour l'équipe d'Espagne, une possession de balle évidemment de 74%, mais ça tient, les Capverdiens ont décidé de toute façon de tout mettre sur la défense, leur gardien de but aussi est héroïque, la défense est héroïque aussi pour faire en sorte que les tirs espagnols soient les plus compliqués possibles, et pour l'instant chapeau à eux, hein. Et même s'ils perdent 1-0, j'ai envie de dire qu'ils n'auront quand même pas démérité hein, sur le courage. Hein.
On rappelle, dans leur groupe, ils ont aussi l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer aussi cette philosophie-là, donc d'être bloc bas aussi contre ces équipes-là, ou c'est juste parce que là, c'est l'Espagne
Je pense quand même que le Cap-Vert est vraiment même en dessous de l'Arabie Saoudite et de l'Uruguay, très clairement. Donc,
ils n'ont rien à perdre, et c'est vrai qu'avec une stratégie comme ça, avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent passer leur meilleure chance, en fait.
Ils n'ont pas trop le choix, alors sinon, ils font comme le Curaçao et ils se prennent une valise. Ah,
le Curaçao a essayé de tenter de presser, ils ont réussi à marquer un but, mais ils se sont fait punir d'ailleurs avec un 7-1 à la fin du match. Ouais.
Après, c'est vrai que le Curaçao, quand on les voit sur les vidéos, ils ont vraiment l'air de vouloir profiter à fond de cette Coupe du Monde.
Je les vois faire la fête à chaque fois, ils rentrent sur le terrain en dansant.
Tant pis, on essaye de marquer au moins un but. Voilà, et c'est vrai que
en plus, ils ont un très gros groupe en plus, avec l'Équateur, le Côte d'Ivoire et l'Allemagne.
C'est clair.
C'est vrai que c'est un peu peine perdue déjà sur le papier.
Ouais, c'est clair. En tout cas voilà, ce match est en train de continuer. J'avais peut-être un truc un petit peu dont je voulais parler, c'est Sébastien notamment qui nous avait envoyé avant le match des petites références notamment d'articles, et il y en a un qui est super intéressant notamment. Je sais pas si tu as eu le temps un petit peu de le lire, cet article là,
de
Mediapart, comment le football a changé la petite Kansas City, et on parle de soccer féminin notamment, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est Mediapart qui a envoyé un journaliste à Kansas City, c'est dans le
Missouri. Ouais, dans le Missouri.
Du coup, c'est une région assez conservatrice, et en fait, ils expliquaient que ça avait pas mal pris la passion du foot dans cette ville de Kansas City, notamment justement, comme vous disiez, après les Jeux Olympiques de 1994. Et surtout chez
le mondial, tu veux dire, de 1994.
Le mondial.
Mais bon, oui. Non, mais pas de soucis, t'inquiète. Hein. Ouais.
Et oui, surtout chez les femmes, le soccer aux États-Unis, ça concerne pas mal les femmes plus que dans d'autres pays.
Ouais.
Et du coup, je me demandais aussi, tout à l'heure, on parlait de Trump, est-ce que vraiment ça va avoir un impact, parce qu'à quel point ça va être suivi, cette Coupe du Monde, en dehors du petit milieu du soccer?
Par le grand public américain, j'ai l'impression que le grand public s'en fout un petit peu, hein, très honnêtement. On a vu plusieurs micro-trottoirs qui ont pu être faits par différents médias. J'en ai vu un de Brut notamment, où il y avait beaucoup de gens, hormis les personnes d'origine étrangère qui habitent sur le sol américain et qui sont plus portées sur le football. Mais on sent pas une passion, et j'ai envie de dire que Trump aussi est en lien avec ça, puisque il a tout fait pour que cet événement ne soit pas plus populaire, par notamment le prix des billets, voilà, toute une politique qui fait que, très honnêtement, on n'a pas vraiment trop envie de suivre ça. Philippe, qu'est-ce que tu en penses?
Ah, je sais pas, moi je voyais pas forcément le truc comme ça.
Ah ouais,
au contraire, qu'il y a une plus grande popularité là-dessus.
D'accord. Et
alors, sur le foot féminin, là pour le coup, les États-Unis, ils sont en avance sur tous les autres pays du monde depuis, mais même des décennies. C'est même pas des années, c'est des décennies. Donc là-dessus, franchement.
Il y a Megan Rapinoe notamment, qui est peut-être la joueuse américaine la plus connue, qui est vraiment ce symbole même de l'identité queer aussi, et de tout ce que le football féminin aussi peut apporter de positif dans les valeurs aussi.
Il y a Alex Morgan aussi, qui était une des plus connues dans la sélection américaine. Je ne sais même pas combien elles ont gagné de fois le championnat du monde, à quel point elles ont de l'avance sur tous les autres pays. Mais je dirais qu'il y a quand même une popularité grandissante. Alors après,
c'est en train de se faire un peu rattraper par l'Espagne ces derniers temps.
Il y a l'Angleterre aussi qui a créé en fait un championnat de très très haut niveau, super bien filmé d'ailleurs. Quand tu regardes la D1 Arkema, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois, le championnat de football féminin en France, qui est à des années-lumière en termes de réalisation technique, en termes de qualité de pelouse aussi. Enfin bref, c'est assez désastreux.
De toute façon, c'est un championnat qui mélange des pros et des semi-pros.
Mais le championnat anglais, lui, pour le coup, il est très suivi. En plus, les stades sont remplis pour assister aux rencontres féminines de football en Angleterre. Enfin, voilà. C'est assez dingue de se dire quand même qu'on a un tel potentiel en France, notamment en football féminin, quand on voit l'équipe de France, quand on voit le PSG, quand on voit Lyon, et de se dire qu'on n'arrive pas en fait à capitaliser là-dessus.
Ouais, c'est vrai qu'elle déçoit un peu à chaque compétition, Euro, Coupe du Monde.
Ouais. J'ai une vraie question de mec qui ne connaît rien. Est-ce qu'il y a une Coupe du Monde de foot féminine ?
Oui, bien sûr. Et justement, oui. c'est ce qu'il disait. La nation la plus titrée, c'est les États-Unis. Je suis en train de regarder 4 titres de championne du monde.
Et nous, on l'a accueilli en 2019, oui, si ça. Je ne me trompe
et,
pas.
Et on aurait pu, en fait, je pense que si les footballeuses françaises avaient fait genre une finale ou avaient même remporté cette compétition, on aurait pu créer un élan un peu comme ce qui s'est passé après 98 ici. Et malheureusement, elles ont été éliminées en quart de finale. Je ne sais plus si c'était le Brésil
face
ou
aux États-Unis, non ?
Les États-Unis, ouais.
Qui ont gagné en plus cette Coupe du Monde.
Ouais, et ouais. Du coup, malheureusement, on a manqué un tournant qui aurait pu être décisif pour le football féminin en France à ce moment-là. Quoi. Parce qu'en fait, en France, il faut des résultats. En fait. Quand des équipes nationales ont des résultats dans les sports, ça amène vraiment des licenciés, des personnes à venir justement s'inscrire dans les clubs.
Et en termes de financement, on est sur un équivalent
absolument pas, absolument pas.
C'est la FIFA qui finance
Bah non, mais enfin, c'est déjà la FIFA qui peut aider, mais après...
Déjà
ouais,
que le foot masculin en France a du mal au niveau des droits télé, alors le foot féminin, c'est géré, mais c'est catastrophique. Quoi. Ouais.
J'espère que demain, vous allez un peu parler de la Fédération française aussi, qui est un peu... Enfin, ils ont un peu des dettes, des problèmes d'argent.
Tu as beaucoup regardé les vidéos de Romain Molina, toi.
De toute façon, entre la fédération et la LFP, on a c'est du croustillant quand même. Niveau gestion, on est quand même pas mal.
Mais en tout cas, le côté aussi intéressant du football féminin, c'est que c'était, comme tu disais, il y avait les sujets queer et les sujets féministes qui étaient très portés aussi par les joueuses et par les supportrices.
Oui, il y a plusieurs joueuses qui ont fait leur coming out et pas des moindres en fait. Contrairement en France, dans le football masculin, on attend toujours en fait un joueur star et on en est sûr et certain, je suis sûr et certain que c'est le cas, qu'il fasse son coming out en fait. Alors, c'est pas le cas. Hein,
joueur star, c'est pas arrivé. Le premier joueur à avoir fait son coming out dans le football, c'est un joueur américain, Robbie Rogers. Et c'était en 2014 et il jouait à Los Angeles.
Il n'y avait pas eu des coming out avant, parce que moi je me souviens d'un joueur.
Alors lui c'est le vrai en mode joueur pro.
Parce qu'il y a un joueur anglais qui a fait son coming out et qui donné la mort quelques temps après en fait.
En activité.
La vague que ça crée. Ouais.
Je crois qu'il y a un autre.
En activité.
Il était encore en activité.
En France on a
moment-là.
Olivier Rouillet aussi qui a fait son coming out, mais après sa carrière. Ouais.
Mais vu qu'on parle de sport féminin, il y a aussi un truc très spécifique au sport féminin, c'est toutes ces tests d'hormones, de ceci, ces suspicions de masculinité aussi, notamment dans parmi les personnes racisées. Moi, je me souviens, c'était pour la Coupe du Monde avec la boxeuse algérienne.
Ah, les Jeux Olympiques, tu veux dire ?
Oui.
Les Jeux Olympiques par rapport à moi.
C'est ça, voilà. Il adore les JO, lui, il adore la Coupe du Monde.
Ou il me semble que c'était peut-être la Coupe du Monde avec une équipe. Peut-être l'équipe chinoise ou je
Iman
sais plus.
Iman Khelif, ouais, c'est ça, ouais. Donc qui a eu la médaille d'or à la boxe lors des
Mais une suspicion de masculinité chez les joueuses féminines racisées.
Et d'ailleurs, il y a eu un basculement là, sur les Jeux Olympiques, parce que je crois qu'ils ont entériné le fait de faire des tests de féminité pour les...
Alors c'est possible, là je t'avoue que je suis pas...
Il y a tout ce qui est tests d'hormones, il y a même examens génicaux qui ont été imposés à certaines périodes. Il y a quand même beaucoup de violences patriarcales qui s'exercent malgré
parce que
tout.
Ce sont des instances qui sont majoritairement dirigées aussi par des hommes.
Oui, c'est
et
ça.
Même quand elles sont dirigées par des femmes, derrière aussi, il y a tout un groupe d'hommes parce qu'ils sont quand même très majoritaires aussi là-dedans. Donc, effectivement, faire bouger les lignes dans le sport professionnel, c'est très difficile.
Il y a aussi ce phénomène, comme on retrouve en politique, où quand il y a des femmes qui entrent en politique, elles se font façonner et ressemblent de plus en plus à des hommes parce que c'est un milieu d'hommes. Et donc, je pense qu'on retrouve aussi ça un peu dans certaines instances footballistiques.
Ah ouais, non mais c'est clair, hein, je pense que de toute façon la lutte continue et c'est ça sera très très long de toute façon pour arriver à une situation ne serait-ce qu'acceptable, on va dire, pour les femmes.
Tu vois, il n'y a aucun test qui est fait sur tous les joueurs qu'on voit pour savoir si leur sous-performance n'est pas due parce qu'à ce soir. C'est aussi un des aspects que j'aime pas du tout avec le sport institutionnel. Je parle bien de sport institutionnel.
Je vous arrête parce que là le Cap Vert, alors bon, malheureusement très mauvais passe, il s'en veut le joueur capverdien parce qu'il aurait dû tenter je pense sur le côté gauche. Il y a des espace qui se crée mine de rien dans le dos espagnol, parce que les Espagnols la montent de plus en plus pour tenter d'aller arracher la victoire. Il y a eu une frappe tout à l'heure d'un joueur capverdien à peu près 25 mètres, bon, un petit peu trop lente et trop à côté.
Un corner très bien joué qui a été arrêté par Unai Simón, le gardien espagnol.
Les Espagnols, là, même là, ils sont en train de prendre des risques parce que ils monopolisent le ballon, ils sont à l'assaut, mais là, ils laissent vraiment des espaces. Si jamais il y a une contre-attaque rapide capverdienne, ça peut leur coûter cher. Hein. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel. Là, toujours 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert, alors que Lamine Yamal tente de percuter sur le côté droit. Mais très bonne défense hein, pour l'instant. Hein. On ne se laisse pas berner par les tentatives de dribble du joueur de Barcelone. Et là, ouais, encore une passe maladroitement exécutée, un petit peu trop faible. Et ça oblige même les joueurs espagnols à commettre une faute pour éviter la contre-attaque.
Faute intelligente.
Sa faute intelligente, on le disait la dernière fois, qui vaudra un carton jaune pour Pedri. Ouais.
Ça reste gentil puisque j'ai regardé un match au début de la Coupe du Monde là, où il y avait eu trois cartons.
Trois cartons rouges, ça a très bien commencé.
Ça avait
Mexique-Afrique du Sud, ouais.
C'est le foot qu'on aime.
Tu sais, il y a un joueur, vous avez jamais joué aux anciens PES, justement, comme on est dans la série PES. Il y a un arbitre de légende.
Oui, italien.
Non, japonais.
Japonais.
Japonais, oui. C'est attends que je te retrouve le nom de cet arbitre. Arbitre PES, carton rouge. Parce qu'en gros, en fait, c'est l'arbitre où tu faisais la moindre petite faute et tu te prenais un carton rouge direct. C'est voilà, tu vois, nostalgie. Il y a plein de trucs qu'on voit sur les. On t'oubliera jamais. Il y en a un qui met on t'oubliera jamais FDP. Kazuki Ito.
Voilà. Port, hein.
Kazuki Ito, l'arbitre en fait qui mettait des cartons rouges dès que tu faisais la moindre petite faute dans les anciens PES.
Il y avait un jeu de foot qui était sur GameCube. J'ai plus le nom. Mais le concept en gros c'était des équipes. C'était une équipe de trois joueurs avec un gardien. Et tu pouvais littéralement boxer la gueule de ton adversaire.
Ah ouais.
J'adorais ce jeu.
Je connais pas. Quand tu me parles de GameCube, moi je pense, tu sais, à Mario Football. Là, il y avait un jeu Mario Soccer ou Football, quelque chose comme ça. Après, je pensais à FIFA Street aussi, dans le côté foot de rue.
Je me souviens que dans FIFA 2001, on pouvait tacler le gardien adverse.
Oui, je me souviens. Je me suis amusé
rouge,
à faire
et
ça.
C'est une chose qui a pu être possible dans les autres FIFA. Malheureusement, c'est dommage. Parce que
ouais, figure-toi que sur ma PS1, ça devait être, je pense, FIFA 99, je pouvais faire ça aussi. Et une fois, j'ai tenté de voir jusqu'à quel point je pouvais aller en faisant expulser un à un tous mes joueurs. Ouais. Je suis arrivé jusqu'à, je crois, 7 joueurs. Je sais plus c'était quoi la règle exacte, mais à partir de 6 ou 7 joueurs, le match était perdu. L'arbitre.
J'ai déjà testé des trucs comme ça aussi. Ouais.
Je m'étais amusé, j'avais fait un test comme ça, j'étais gamin en ce moment.
À la fin, l'arbitre, il hésite à donner des cartons. Le dernier carton rouge, il est dur à avoir quand même.
Ah ouais, d'accord, je me souviens plus de ça. Je me souviens juste que j'avais fait ça et à un moment donné, j'ai eu la surprise de me dire ah ouais, parce que je voulais voir mon équipe à 0 joueur ou à 1 joueur à la fin.
On a eu les mêmes délires.
Ouais, en fait, l'âge de l'expérimentation.
Aussi,
hein.
Pas allé aussi.
Non, ils sont pas allés assez loin, effectivement. Ouais.
Il y avait ce quoi, FIFA 90 ou 99, où tu pouvais courir tant que l'arbitre te courait après pour te mettre un carton. Et tant que tu t'arrêtais pas, tu recevais pas le carton.
Ah, j'ai plus de souvenirs à ce point-là. Ouais.
Et c'est fini. C'est terminé.
Bravo
dans ce match.
Le Cap-Vert. Je pense qu'on peut faire ceci pour le Cap-Vert. Grandes félicitations effectivement pour le Cap-Vert, cette petite nation de à peu près 500 000 habitants qui tient tête à l'Espagne et qui donc obtient le point du match nul 0-0. C'est quand même surprenant. Hein. Ouais.
On avait dit que ce serait dur pour l'Espagne, ça l'a été.
Ouais.
J'ai pronostiqué ça avec des amis, là, ils m'ont forcé à m'inscrire sur un site de pronostic entre amis. Là,
ah oui, oui.
J'avais mis 1-1. MPP. Donc là, ah ouais, ça me fait quand même des points pour le match.
Un partout quand même, penser que le Cap-Vert allait marquer un but.
J'y connais rien, je mets des trucs au pif.
Ouais. Mais bien joué, ouais.
Bah, c'est vrai, j'avais mis 3-0 pour l'Espagne.
Alors. Bilan donc de cette rencontre, donc ça fait bien un partout entre le Cap-Vert et l'Espagne et on va faire un point rapidement sur les prochaines rencontres notamment de ce groupe H. 0-0, je me suis laissé influencer par toi, pardon. 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert. Cette nuit, à partir de minuit, donc il y aura l'autre rencontre de ce groupe H Arabie Saoudite face à l'Uruguay.
L'Uruguay qui vient d'arriver il y a quelques heures après des problèmes administratifs. Ils n'avaient pas envoyé tous les documents pour arriver aux États-Unis.
Oh, une dinguerie de plus. Une dinguerie de plus. Bon, alors cette fois-ci, là, c'est pas la faute de Donald Trump.
Alors, c'est pas vraiment la faute de Donald Trump, mais en fait, la FIFA doit fournir des documents aux États-Unis. Alors, est-ce que la FIFA a bien fourni tous les documents? Après, il y a des questions à se dire aussi que l'Uruguay, la fédération, doit bien tout vérifier. Quand même, ils ont, c'est leur rôle de tout vérifier si tout est en ordre à moins de 24 heures de jouer son match d'ouverture. Donc, ils ont quand même bien pu atterrir avec un peu de retard sur à Miami et faire la conférence de presse.
Aïe. Non, mais moi, c'est.
Mais bon.
Bon, bah voilà.
Une de plus.
Une de plus, c'est ça. Et ben, au prochain épisode, hein, peut-être que demain soir, on aura encore d'autres dingueries, d'autres nouvelles dingueries à annoncer.
Bah, Steven, je serai pas là.
Bah, non, mais moi, c'est ma dernière participation normalement.
Oui, c'est ta dernière. Ah. Non, tu reviendras peut-être pour les phases à élimination directe.
Peut-être.
Il y aura des matchs de l'équipe de France, il y aura une demi-finale, il y aura une finale.
J'ai transmis tous les messages que j'avais à transmettre. profitez bien, mais en même temps, restez vigilants. N'oubliez pas que derrière, il y a des logiques politiciennes pour vous amadouer. C'est ça le plus important. Et après, voilà. Bon. Compétition sportive.
Profitez-en effectivement, mais ne soyez pas naïfs et restez toujours vigilants. Je pense que c'est le message hein, de cette émission du Piatre Evolution Soccer. Et on va continuer effectivement d'en parler des dingueries. Philippe, tu avais un bilan de ce match peut-être, si tu l'as vraiment regardé, parce qu'en fin de compte, on n'a pas trop regardé. Hein.
Magnifique, on en a parlé, je pense, 5 minutes en cumulé. On s'attendait à une Espagne qui joue. Ouais. Bon, bah.
Ça, on a une très très belle image là par contre. Ouais, je me permets juste de t'interrompre parce qu'effectivement, c'est ce que tu me disais, Maxime, le gardien de but de cette équipe capverdienne en larmes, Vosinha, auteur d'un match absolument sensationnel sur Flash Score. Il est crédité notamment de la meilleure note du match, 8,8 sur 10, avec une prestation vraiment impressionnante. Ouais. Bien aidé aussi par sa défense hein, qui a vraiment été héroïque. Et vraiment là, on a aussi l'esprit, le bel esprit de cette Coupe du Monde là pour le coup.